Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Il ne faudrait pas qu'un train en cache un autre, comme on dit. Il ne faudrait pas que la transition écologique cache la révolution de l'intelligence artificielle. Dans les deux cas, l'humanité peut y gagner ou tout perdre. L'homme, par la mise en question de sa condition, comble un manque à agir par l'invention d'outils, on l'a vu dans l'histoire. Le marteau, par exemple, corrige les carences de la main. La machine vient combler le manque à agir vite, en masse et avec précision. Déjà, ce progrès a entraîné les changements sociopolitiques de la première révolution industrielle. L'informatique comble le manque à mémoriser et à calculer. Et maintenant, l'intelligence artificielle tend aujourd'hui à combler le manque à décider. Et là, c'est très grave. Trop de paramètres interfèrent pour que l'homme puisse décider d'une solution à un problème en pleine connaissance de cause. L'ordinateur peut le faire à sa place. On a l'exemple quotidien des traders. Les traders assistés d'ordinateurs, c'est même plutôt l'ordinateur qui agit tout seul, fait des milliers d'opérations à la seconde. Enfin, c'est absolument extraordinaire, là. Mais peut-être plus, ça nous concerne davantage, les simulations des divers scénarios de la retraite par points, c'est fait par l'intelligence artificielle. Et pourquoi pas, hein, j'ai pas de principe opposé. Mais la question qui se pose, c'est qui vérifie le calcul des ordinateurs ? Personne. Sinon, le temps gagné par l'ordinateur et l'intelligence artificielle est à nouveau perdu. Du coup, l'homme s'exclut du pouvoir de décision. On peut même dire que l'humanité perd peu à peu, sans trop le savoir, la maîtrise de son destin. Souvent, on se rassure très vite en disant que c'est l'homme qui programme la machine et qu'à la limite, on peut programmer de détruire tel robot s'il venait à devenir un risque. Ce n'est pas si simple. Les dernières générations d'ordinateurs sont programmées pour s'auto-programmer et s'auto-améliorer. C'est ce qu'on appelle la singularité, singularity en anglais, dans le jargon des futurologues. C'est-à-dire un monde nouveau, à mutation rapide, inimaginable aujourd'hui, où les robots s'inventent eux-mêmes. Pourquoi ne parviendrait-il pas, finalement, à déjouer les sécurités initialement programmées par l'homme ? Ou tout simplement, des pannes robotiques n'entraîneront-elles pas des dysfonctionnements dangereux comme celui de Hall 9000 dans le film 2001 « L'Odyssée de l'espace ». Dans moins d'un demi-siècle, paraît-il, l'intelligence artificielle dépassera l'homme dans tous les domaines et elle peut même déjà, et là c'est absolument extraordinaire, jouer à faire paraître des émotions, des sentiments. Je dis bien « jouer », mais pas éprouver réellement des émotions. Une machine peut donner l'impression de souffrir, mais un moteur, tout simplement un moteur, je ne parle même pas d'un ordinateur, un moteur en difficulté ne souffre pas, quoi qu'on en dise. Il n'éprouve rien, et un ordinateur non plus. Sauf que Ce dernier peut faire semblant en imitant les paroles et gestes de l'homme qui souffre. C'est toute la différence entre le vivant et l'artificiel, le spirituel et l'intellectuel. Mais alors, l'ordinateur ne dépasse jamais l'homme? Eh bien si, il peut trouver de bonnes solutions beaucoup plus vite que l'homme. C'est pourquoi les chercheurs s'orientent vers l'implantation de prothèses de l'intelligence artificielle dans le cerveau humain, sans pouvoir d'ailleurs en mesurer les conséquences tout à fait inconnues. Ils appellent ça l'homme augmenté, ou encore de façon plus sophistiquée, le cyborg. Mais attention, l'homme qui, lui, ne sera pas augmenté par ses implants, sera soumis au cyborg sans âme. L'homme est en passe de créer une sorte de nouvelle race, une espèce différente et supérieure en efficacité à l'homme, où on parle de transhumain, de transhumanisme. Moi, je parle plutôt d'anti-humanisme. C'est pourquoi un Grenelle du numérique est une priorité aussi urgente que la lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes en train de donner aux robots le pouvoir de décider à notre place. L'exemple le plus significatif est la voiture autonome qui se conduit seule dans les conditions actuelles de circulation. Google et peut-être d'autres finissent de la mettre au point. C'est l'exemple dont parle l'écrivain et éditeur Frédéric Boyer dans La Croix du 15 novembre 2018, pour nous montrer dans quel péril moral nous risquons de nous orienter. Frédéric Boyer m'a ouvert les yeux sur une grave question morale très concrète. Il nous invite à consulter un site web conçu par la Toulouse School of Economics, c'est-à-dire celle d'où vient notre prix Nobel d'économie Jean Tirole, et le mythe. Le Massachusetts Institute of Technology, c'est un des laboratoires les plus connus du monde. Le site s'appelle en un seul mot moralmachine.meet.edu, c'est tout. 3 millions de personnes ont été testées dans le monde pour en quelque sorte programmer l'intelligence artificielle d'une voiture autonome qui devra prendre des décisions morales à la place du conducteur. Les questions testées sont par exemple, quel est le moindre mal entre tuer les deux personnes de la voiture autonome ou faucher 5 piétons ? Autre question, entre tuer un handicapé ou un enfant, que choisir ? L'enquête permet de programmer l'atroce morale des robots. Ces questions se posent, c'est vrai, hélas, à des conducteurs en situation à leur volant dès maintenant. À vous, à moi. Alors, qu'est-ce qui est atroce dans cette étude ? C'est que la réponse est programmée, figée, alors que le dilemme n'est pas ressenti dans sa dimension tragique. La morale n'existe que par le scrupule, qui taraude la conscience dans un instant d'indécision. Le contraire du scrupule, c'est la recette toute faite, qui donne aux hommes si bonne conscience et aux robots sa solution. Il n'y a pas de morale du robot parce que son logiciel le prédétermine sans choix difficile, sans traumatisme. Comme le disait Albert Camus, et je cite, « La liberté est dans la marge d'indécision de mes choix, dans l'hésitation angoissée, dans l'ouverture à l'altérité. » Cette marge est aussi celle de la mauvaise conscience, avoir mauvaise conscience quand on agit, et du tragique, mais tout autant de l'exaltation d'être un être humain.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.